Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Il est 7h08, nous y sommes après le jardin et avant de retrouver tout à l'heure la forme et la santé avec Christian Aikia. Et avec Christian Aikia tout à l'heure, entre 8h et 9h, on reviendra sur la canicule qui s'annonce. Tiens, quelles sont les précautions à prendre en période de canicule? Voilà, est-ce qu'il faut manger différemment? Quels aliments privilégier? Quelle incidence sur notre activité physique, etc.? Comment faire aussi pour se rafraîchir? On évoquera tout ça donc avec Christian Aikia tout à l'heure. Mais dans l'immédiat à la maison, Christian PC, rebonjour.
Rebonjour mon cher François.
Comment réaliser une terrasse en bois ou en composite? Ce sera votre conseil.
Oui, c'est ça.
Dans un instant, Christian. Et puis ensuite, on évoquera l'immobilier. On aime bien de temps en temps évoquer le marché de l'immobilier dans ce rendez-vous maison, l'immobilier ancien, et peut-être associer tout ça à ce qui s'est passé ces derniers temps. Est-ce qu'on va acheter maintenant l'appartement comme on l'aurait acheté avant cette épidémie de Covid?
Certainement pas, parce qu'on a redécouvert son appartement, son logement, sa maison. On a été évidemment confiné, et du coup, eh bien, certaines parties de la maison sont apparues comme un peu une bouffée d'oxygène. On a évidemment parlé des balcons, les terrasses, mais aussi finalement la cuisine, par exemple.
Bien sûr.
On a cuisiné alors qu'on avait simplement réchauffé depuis des années. Donc tout cela sont des facteurs d'appréciation différents du logement. On va voir ça avec Eric Alouche, qui est directeur exécutif du réseau ERA.
Voilà. Et puis est-ce que c'est le bon moment aussi d'acheter?
Voilà,
c'est une période un peu troublée. Ouais. Est-ce que il faut sortir le carnet de chèques maintenant ou attendre un petit peu que tout ça se calme?
Et on parlera viager aussi, parce que ça devient de plus en plus un placement. On va voir comment.
Moi, je me rends compte que j'ai fait une très mauvaise affaire en achetant votre appartement.
C'est
viager,
ça,
hein.
C'est ça. Mais
moi, je comptais
vous
que
auriez dû regarder.
Christian disparaisse comme ça assez rapidement. Ça fait des années.
Vous auriez dû regarder.
Ça me coûte une fortune.
Vous auriez dû regarder mes ancêtres qui vivent assez longtemps.
J'aurais dû regarder surtout vos analyses.
Oui. Elles sont pas trop mauvaises.
Elles sont pas mauvaises, quand même. Franchement. Voilà. Mais je vais vous précipiter un petit peu. La prochaine fois, on prendra les escaliers.
C'est ça. Mais moi, je pourrais vous pousser à la descente.
Mais bien
aussi.
Sûr.
Parce que vous voulez m'avoir à la montée, moi, je vous aurai à la descente.
Cela dit, il paraît que vous avez une bonne descente. Hein, c'est ce que dit votre femme. Alors, Christian, le 32-16 à votre disposition, bien sûr, pour poser toutes vos questions. Bricolage maison déco dès maintenant. 32-16, l'appli RMC. Direct studio. Et puis, j'aurai encore une piscine à vous offrir.
Ah, c'est chouette.
C'est bien, hein, quand même.
Vous allez enfin vous mouiller.
D'autant que là, avec les températures qu'il va avoir, franchement, ça vaudra vraiment le coup de se mouiller. La piscine, ça sera dans un instant sur RMC. Donc, restez là. 32-16 pour vos questions maison. L'appli RMC Direct Studio. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on attaque avec Anthony qui est là. Bonjour, Anthony.
Bonjour François, bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Bienvenue Anthony sur RMC.
Bonjour. Je vous dis merci François pour la piscine, hein, tout de suite.
Ah, vous avez raison.
Voilà. Mais alors attendez, vous me dites merci parce que vous pensez l'avoir gagné, c'est ça?
Ah bon, c'est pas pour ça que je suis sur l'antenne?
Ah non. J'ai pas l'impression. Maintenant, rien ne vous empêche de jouer, on sait jamais, hein.
Ah, bah, c'est un malentendu, on sait jamais.
Mais vous savez, Gilles, notre producteur, peut-être un peu vous favoriser. Je sais pas s'il a le droit, mais il peut essayer en tout cas.
Ah, s'il pouvait, ça serait gentil alors.
Écoutez, jouez, on verra bien. On va voir ce qui se passe.
On va jouer.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Anthony?
Ah, j'ai envoyé un petit message à Christian parce que j'ai des joints à refaire autour de ma baignoire.
Oui.
Et je ne sais pas s'il faut les couper pour les refaire correctement ou on peut remettre directement une petite pâte par-dessus.
Ça tombe bien, en plus, c'est le mois de juin.
Ça tombe bien, oui. Mais il nous en sort toujours des comme ça, mais il faut un petit temps de...
Il faut surélever le débat.
Voilà, Christian. Alors...
En plus,
vous n'avez plus que 10 jours, là.
Hein. Et pour ces joints, je vais essayer de ne pas être fumeux. Hein. Donc, oui.
Christian.
Bon. Donc,
oh, ça vole haut.
N'est-ce pas,
hein. J'en peux plus, Anthony. Venez me libérer.
Ben, si vous voulez, je vais venir avec vous et je vais faire l'intervenant.
Alors, j'aimerais bien.
Je veux dire,
ah bon, moi aussi.
Là, il faut décaper tout ça. C'est pas la peine d'essayer de remettre quelque chose dessus. Alors, il y a des possibilités d'essayer de le nettoyer. S'il est encore en très bon état, on peut qu'il est simplement soit noirci, soit jauni, parce que le jaunissement du silicone provient pas du fait que c'est pas bien entretenu. Ça provient du fait que c'est dans le noir la plupart du temps dans la salle de bain. Et le silicone jaunit en l'absence de rayonnement solaire. C'est un petit phénomène à connaître. Donc si c'est encore à peu près en bon état, il y a des solutions de nettoyage. Alors il y a des produits pour ça. Une petite recette, bicarbonate de soude plus vinaigre blanc, 3-4 cuillerées dans un bol de vinaigre blanc, et puis on brosse son joint. On peut essayer. Il y a des produits donc du commerce qui existent. Et puis il y a des blanchisseurs, si j'ose dire, ou des produits blanchisseurs, qu'on peut appliquer dessus. Mais tout ça tient pas très longtemps. Donc si c'est pas jojo, si c'est noirci par les moisissures.
C'est noirci, moi. Bon, alors, je sais pas si vous avez vu les photos.
Non, j'ai pas vu les photos, mais il faut à ce moment-là l'enlever. Alors il y a une solution qui est mécanique. Les deux d'ailleurs sont plus ou moins mécaniques, mais c'est il y a des petits accessoires qui sont vendus souvent avec d'ailleurs le produit de remplacement de joint silicone. C'est une espèce de petite spatule en V qui permet donc on glisse sous le joint et on enlève tout ça. Et puis il y a des produits donc tels que il y a autre joint par exemple. C'est un produit qui permet de dissoudre le joint silicone. Donc on enlève tout ça, on brosse. Alors après il faut refaire le joint. C'est pas le plus simple. Ça paraît simple. C'est pas le plus simple. Alors ce qu'il faut faire, c'est limiter déjà la taille du joint. Donc avec de la bande cache de peinture, hein, donc que pour peinture, hein, que vous mettez donc sur votre carrelage et sur la baignoire ou la douche pour limiter la taille du joint. Et puis ensuite il y a deux écoles. Il y a une école je pousse ou je tire. Les vrais pros poussent. On n'a pas.
C'est la pétanque.
Voilà, c'est ça. Ça, on pousse le.
Tu pousses ou tu tires.
le cordon qui est. Avec donc une cartouche. Alors, il existe des cartouches qui sont en pression et qui permettent donc tout simplement de faire le joint. Et puis il y a aussi, alors le mieux si on a beaucoup hein, quand même à faire, c'est ce qu'on appelle le pistolet extrudeur avec des cartouches que vous mettez dedans. Et puis faut le faire simple, très progressivement. Ensuite, il y a le lissage du joint. Alors là aussi, il y a des petits accessoires qui existent, mais sinon, il y a l'astuce connue qui est le doigt trempé dans du liquide vaisselle, parce que ça permet de bien creuser, de bien lisser le joint, et puis on laisse prendre, et puis ensuite on enlève la bande cache de peintre. Voilà.
En plus, c'est un geste barrière, ça, le doigt dans le liquide vaisselle.
Oui,
le Covid,
ça, là, il disparaît immédiatement.
Donc
voilà, c'est bon, ça vous va?
Ça va, nickel, je vais essayer ça.
Voilà. Mais en général, c'est plus facile de tirer le joint que de le pousser, même si les pros disent.
J'ai pas grand chose, c'est vraiment juste autour de la baignoire qu'il faut que je refasse, c'est là que ça noircit.
Ouais, ouais.
Et sinon, un peu plus haut, c'est vraiment après faire votre astuce de grand-mère pour faire le reste.
Vous pouvez tester. Ok.
D'accord, merci beaucoup.
Bonne matinée.
Je pense que je vous recontacterai parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans la maison et
pas en bricoleur. N'hésitez pas.
Anthony, vous savez quoi, on est là pour ça.
Ah, grand merci à Bob le bricoleur, alors.
Non, Bob le bricoleur.
Bob, non, je m'appelle pas Bob.
Hein. Ça vous va bien, hein, Bob le bricoleur.
Merci. Oui, vous croyez qu'il va falloir que je me trouve ce pseudo?
Eh oui, c'est peut-être
ça
un peu
peut
tard.
Chris le bricoleur.
Pourquoi Chris?
Ah, Christian.
Ah, Chris oui. Le bricolo.
Cricri le bricoleur.
Voilà, Cricri la bricole, comme on disait.
Merci.
Anthony, merci.
Merci beaucoup, bon week-end à vous.
Tiens, on parlait de mois de juin, il y a Bob. Il y a des rapports quand même entre Bob Marley et le mois de juin. Alors, il est 7h16, 17 même, Christian. Un peu de sérieux, Christian.
Oui.
Je vous sens un peu, comment dire, là.
C'est le beau temps qui arrive.
Vous êtes d'humeur taquine.
N'est-ce pas?
Hein? Christian, attention, s'il vous plaît. Là, on rigole beaucoup moins, puisqu'on va parler terrasse en bois au composite. C'est votre conseil. Donc, un peu de concentration, s'il vous plaît.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Alors, cette terrasse en bois ou en composite, comment la réaliser ?
Ben oui, c'est la saison. Hein. Et puis, on a découvert aussi, justement, à l'occasion du confinement, les terrasses qui sont pas toujours très agréables en tant que sol. Donc, la tendance, c'est à faire des terrasses en lame de bois ou en lame en bois composite. On va voir ce que c'est. Oui. On peut aussi mettre des dalles en caillebotis. Ça, c'est pour les paresseux. Il y a rien à faire, juste aller poser. Alors, on peut utiliser différentes essences de bois, ça va du résineux de pays comme le Douglas, le Mélèze, jusqu'au bois exotique les plus nobles, le teck par exemple, évidemment le red cedar qui sont le top. Et puis on peut faire aussi des terrasses en bambou, hein, le bambou est de plus en plus utilisé notamment pour faire des parquets. Alors quand on prend du bois, il faut faire attention à une chose, ça va être exposé aux intempéries, il faut prendre du bois de classe 4 donc et 5 si on est vraiment au bord de la mer ou si c'est appelé à être les pieds dans l'eau, mais c'est quand même assez rare. Alors il faut, je répéterai jamais assez qu'il faut prendre des bois éco-certifiés, hein, c'est PEFC ou FSC.
Ça sert à quoi ça?
Ça veut dire que, notamment pour les bois exotiques, ça veut dire que ce sont des bois qui sont issus de forêts gérées de façon écologique, de façon durable. C'est très très important. Les forêts primaires d'un certain nombre de pays, notamment en Indonésie, aussi en Afrique et en Amérique du Sud, notamment en Amazonie, sont déforestés de façon sauvage. Et quand on a une certification PEFC ou FSC, on a quand même de très bonnes chances que ça soit dans des pays qui ne saccagent pas, que ça vienne de pays qui ne saccagent pas leur forêt. Alors, j'ai parlé du composite. Alors, qu'est-ce que c'est le composite ? Eh bien, ce sont des lames qui sont constituées d'une partie de sciure de bois, donc de déchets de scierie ou d'industrie de transformation du bois, et d'une part de plastique, c'est du polyéthylène, c'est du polypropylène ou c'est du PVC. Alors la proportion de l'un et de l'autre peut varier, souvent c'est 50-50, mais c'est souvent 60, ça peut aller jusqu'à 70% de bois. Ce sont des lames qui sont creuses, donc extrudées ou pleines. C'est un matériau très intéressant parce que évidemment il est imputrescible, ça va de soi, et puis il ne demande pratiquement pas d'entretien, il y a une teinte constante, et puis c'est souvent moins cher que le bois. Bon, bah après, c'est une question de choix, je dirais, un peu éthique, par rapport, pas poétique, hein, un peu éthique, un peu évidemment, éthique. On dit pas politique non plus. Bon, alors, les lames, elles font en général 27 mm d'épaisseur, hein, 14 à 10 cm de large, et puis elles font de 2,40 m, c'est ce qu'on trouve dans le commerce de distribution, jusqu'à 4 mètres, c'est les professionnels qui utilisent ce genre de choses. Elles sont rainurées souvent, donc, sur champ, sur le côté, et puis rainurées aussi en surface pour être moins glissantes. Alors, on peut aussi utiliser, je l'ai dit tout à l'heure, des dalles de caillebotis de 50 sur 50 cm, qui, elles, ont l'avantage d'être autoplombantes, comme on dit, c'est-à-dire que leur poids suffit à les maintenir au sol, il n'y a D'accord. pas besoin de préparation particulière. Alors, en revanche, les lames, ou même certaines dalles de plus petite dimension, eh bien, elles sont posées sur ce qu'on appelle des lambourdes, c'est-à-dire des pièces de bois qui peuvent être en largeur ou en hauteur. Ça forme une sorte de réseau, on va dire, de solivage, ouais. Sur lequel ensuite on vient poser les lames. Alors, soit elles sont posées directement par vissage ou avec des clips qui prennent dans les rayures qui sont sur champ ou sur des plots. Alors, les plots, ça permet de régler, les plots sont réglables et ça présente l'avantage de faciliter la mise à niveau donc de ces lames. Un conseil important, que ce soit sur du bois ou que ce soit sur du composite, il faut laisser autour, s'il y a des murs, une distance de 8 mm à peu près pour permettre la dilatation du produit. D'une façon générale et principalement pour le composite, attention aux lames qui sont de teinte trop sombre. On adore, je ne sais pas pourquoi maintenant, on adore des lames quasiment noires. Alors c'est joli, c'est esthétique, seulement quand il y a du soleil, on ne peut plus marcher dessus.
Bah oui.
Parce qu'évidemment, ça devient complètement brûlant. Donc, c'est un peu embêtant pour la terrasse. Donc, des teintes plutôt claires. Moi, j'aime bien aussi ce qui est un peu cérusé, ce qui est un peu gris pâle. Je trouve que c'est pas mal. Avec ça fait ressortir le veinage du bois. C'est joli aussi. Et puis, ça évite ce phénomène de la surchauffe. Voilà.
Très bien. Tiens, il y a un instant, on parlait de joint de baignoire avec notre invité sympathique. Il y a Ludo sur Direct Studio qui nous dit « Bonjour, pour les joints de baignoire, il y a une astuce.
Il faut remplir la baignoire avant de faire les joints. C'est très important. Cela évite qu'il craque de nouveau.
Alors, ça dépend de la baignoire. Si vous avez une baignoire en fonte émaillée,
ça ne servira pas à grand chose.
Non, si vous avez une baignoire en acrylique,
ouais, c'est peut-être
ça
pas mal. Hein.
Effectivement,
oui, parce qu'elle va bouger avec l'eau et
oui.
Bon.
Non, mais c'est bien, c'est pas idiot.
Vous voyez comme quoi les auditeurs, hein, parfois
c'est du participatif.
Les auditeurs sont meilleurs que vous, hein, et ça, on le remarque de plus en plus. C'est bon, peut-être que bientôt j'aurai mon viager. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a un beau cadeau à remporter. On parlait de baignoire, moi je vous offre non pas une baignoire, non pas deux baignoires, mais une piscine. C'est mieux quand même. Une piscine Summer Waves, une piscine tubulaire, rectangulaire de 4 mètres sur 2, qui sera parfaite pour profiter de ces journées d'été qui s'annoncent chaudes. Pour tenter votre chance et remporter cette piscine, c'est simple. Vous nous envoyez maison par SMS au 732-16. Vous tapez maison sur votre mobile. Vous l'envoyez au 732-16. Attention, le SMS est surtaxé et vous participerez automatiquement au tirage au sort. Il y a une piscine à gagner d'ici 8 heures. Allez-y. Bonne chance. Dans un instant, on va évoquer l'immobilier ancien avec l'impact de la crise sanitaire qui change un petit peu la typologie d'appartements que l'on cherche aujourd'hui. On va évoquer aussi le marché de l'immobilier. Si vous avez des questions sur ce sujet, tiens, si vous voulez acquérir un bien, est-ce que c'est le moment ? On aura un spécialiste avec nous en studio. Donc profitez-en, vos questions. 3216, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans une minute, juste après la météo.
Votre maison sur RMC avec Mano Mano. RMC.
Votre nouvelle maison. Oh, la maison.
On déménage.
Tu viens d'emménager.
Bah, tu vas déménager.
Mais pourquoi?
Parce qu'on te le dit.
C'est
bruyant, quand même.
Jusqu'à 8h. J'ai fait appel à des particuliers. Et effectivement, il y en avait qui étaient particuliers.
On commence avec l'entrée. Donc l'entrée, avec des placards dans cette entrée de part et d'autre. Des placards où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez.
Votre maison.
Bon, ici, ils avaient mis un disjoncteur, mais chacun est fiscal.
Vous indiquiez refait à neuf. Tout à fait. On s'y est mis avec 8 potes. On l'a refait à neuf. Attention, on a conservé le charme de l'ancien.
François Sorel.
Ah, c'est ça l'odeur.
Christian PC.
Tu me faisais une joie de ce déménagement.
Là, c'est un florilège.
Ah oui. Là, c'est un vrai régal. Bravo à Kevin et puis à Gilles. Alors, parce que franchement, c'était bien.
Oui.
Alors, Christian, on va déménager ce matin.
Oui, on va peut-être déménager. On est avec Éric Yanouche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif du réseau ERA.
Absolument. Hein ?
C'est quelques agences ?
Quelques agences, environ 420 agences en France, réseau international d'agences immobilières d'origine américaine. Voilà.
D'accord.
Alors, on va parler d'immobilier. Vos questions, immobilier, profitez-en. Hein. C'est le moment où jamais on a un spécialiste avec Christian. Le 3216, l'appli RMC Direct Studio, notamment sur l'immobilier ancien, Christian.
Oui, on va parler essentiellement immobilier ancien. Alors, ma première
question.
C'est
quoi l'immobilier ancien ? Oui, qu'est-ce qu'on dit ?
À partir de quand c'est de l'ancien ?
Bah, voilà, c'est plus du neuf. Voilà, exactement.
C'est simple. Quand on
est un immeuble de 2017, c'est de l'ancien ?
2017. Alors en fait, ça dépend parce que on considère que c'est de l'ancien quand on est sorti de la période de neuf. En gros, c'est-à-dire que si on le revend, on sera pas en TVA, on sera en droit d'enregistrement. Donc voilà, d'accord, ça c'est considéré souvent comme l'ancien parce que ça a pu les caractères du neuf, notamment au niveau de la revente.
En fait, l'État considère aussi à partir de 2 ans, par exemple, pour un certain nombre d'aides, il faut que l'appartement ait plus ou la maison ait plus de 2 ans.
Oui, exact.
Donc on peut presque considérer que 2 ans, c'est devenu de l'ancien. Alors tout bêtement, avant d'entrer dans les considérations liées à la période qu'on vient de vivre, mais est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Il y a quelques instants en off, vous disiez c'est toujours le bon moment.
Ben oui, c'est toujours le bon moment, tout simplement parce qu'il vaut mieux payer un crédit qu'un loyer. On est obligé de se loger, ça c'est toujours vrai. Donc autant payer le logement pour pouvoir devenir propriétaire,
d'accord,
c'est-à-dire que constituer un patrimoine, oui, quand on peut le faire, évidemment.
D'accord, mais quand on achète, d'abord, il faut avoir les moyens de payer son crédit, et puis on a aussi des charges qui, dans certains cas, peuvent se trouver gonflées par des travaux, des choses comme ça. Alors que lorsqu'on est locataire, on en est exonéré.
Oui, effectivement, donc il faut bien regarder. Je ne dis pas qu'il faut se fermer les yeux, etc., il faut bien regarder. Mais d'une manière générale, il vaut mieux payer un crédit plutôt qu'un loyer, je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Oui.
Donc évidemment, après, si on achète une ruine.
Mais tout dépend où on est, non ? À Paris, c'est plus compliqué.
Alors, à Paris, oui, il faut avoir les moyens, surtout à Paris. Donc, effectivement, si on n'a pas les moyens, de louer un appartement à Paris, c'est quand même onéreux, même avec le plafonnement des loyers. Donc, qui a les moyens, effectivement, de louer à Paris, c'est pas évident. Souvent, c'est des petites surfaces où beaucoup de gens vont avoir tendance à aller un peu plus loin. Chose qui se passe, effectivement, de manière un peu générale. Pour habiter à Paris, il faut quand même avoir les moyens.
Alors, justement, on va y venir sur cette question du transport. Ma question, l'essentiel de notre émission aujourd'hui, est-ce que le confinement, finalement, a changé le regard des gens sur leur logement, que ce soit une maison, mais surtout quand on est en appartement, parce que quand on s'est retrouvé confiné pendant toutes ces semaines dans un... même si on a 50 mètres carrés à Paris et qu'on a trois enfants sur le dos, ça n'a pas été simple. Est-ce que, justement, il y a une vision différente ? Est-ce que les critères de sélection ont changé du fait du confinement ?
Absolument. Il y a eu énormément de choses qui ont changé dans la perception des gens. J'ai discuté avec beaucoup d'agences, on a mené des enquêtes en interne. Oui. Et effectivement, le fait d'être coincé, d'être confiné, a provoqué chez les gens un certain nombre de réactions. Notamment, on a été obligé de vivre chez soi. Donc, il y a un certain nombre de choses au niveau des aménagements. Donc, on s'est dit, il faudrait quand même vivre comme ça. Alors, avant, je vivais souvent dehors. Je vais moins en vase clos. Et là, depuis que je vis en vase clos, forcément, j'ai découvert un certain nombre de choses et je ressens certaines nécessités que j'avais pas. Également, beaucoup de demandes sont faites aujourd'hui sur les balcons, sur les terrasses, sur les raies de jardin. Les raies de jardin.
Ah mais les raies de jardin dont personne ne voulait parce que on pouvait
exactement
regarder chez eux.
Exactement.
C'était pas sécure au niveau de au niveau des cambriolages.
Mais qu'est-ce qui intéresse maintenant ? Pourquoi les raies de jardin en fait ?
Les raies de jardin tout simplement parce que on a ressenti vraiment une gêne. On a été bloqué, on a été coincé. Et le fait aujourd'hui de pouvoir avoir cet espace, en fait c'est la vraie question, c'est l'envie d'espace, l'envie de plus être coincé. Vous voyez, c'est un petit peu général. Alors ça se traduit de manière différente évidemment suivant les situations. Il y a des gens qui sont obligés de rester à Paris. Donc, avoir une maison à Paris ou même un rez-de-jardin, c'est très difficile. Par contre, d'avoir un balcon, peut-être une petite terrasse, c'est possible. Ou alors, il y a des gens aussi qui sont carrément partis. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler.
Qui
sont partis plus loin. Avec des coûts de l'immobilier qui sont beaucoup plus bas. Avec, pour certains, des possibilités de télétravail. Donc, ils ont découvert le télétravail.
Ce confinement a été une prise de conscience.
Exactement.
En fait, hein.
Oui, absolument.
C'est dingue.
Absolument. Et c'est très intéressant, même sociologiquement. Bon, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Mais ça a des conséquences sur la vie carrément des gens.
Mais on voit que ça n'est pas terminé parce que, je ne sais pas dans votre entreprise, mais moi je côtoie beaucoup d'entreprises, notamment dans la construction, etc. Il y a une majorité de gens qui ne sont pas encore au travail, qui sont en télétravail.
Ah ben c'est pas terminé, de
mais
toute
c'est
façon.
Incroyable, moi,
vous savez, tant qu'on n'a pas trouvé de remède efficace ou de vaccin contre ce coronavirus, on traîne ce truc-là pendant un certain temps. Donc d'ailleurs, on ne sait pas trop effectivement quand est-ce que ça va arriver et on n'est pas à l'abri non plus d'un autre virus, d'un autre problème. Il y a déjà eu ces cas-là en Asie. On ne les a pas eus chez nous, mais on pourrait très bien avoir ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a les esprits qui ont changé là-dessus et les gens s'installent dans une possibilité en fait qu'on puisse se reconfiner. Donc c'est en train de s'imprégner dans les esprits.
Alors il y a aussi la pièce supplémentaire, justement pour le télétravail ou le coin.
Le coin bureau.
J'ai expliqué plusieurs fois que dans ce confinement, puisque je suis entre Caen et Paris, et à Caen, j'ai installé mon bureau, mais durablement, du coup, hein, dans la véranda. Alors, les plantes, ça va pour l'instant. Je ne sais pas comment je vais gérer les choses cet hiver, parce qu'il faudra mieux rentrer les plantes. Bon, j'espère que cet hiver, l'hiver prochain, on aura tourné la page. Mais je crois que ça, c'est important. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de surface ou ça veut dire un aménagement
c'est les
différent ?
Deux. Les deux, mon capitaine, j'ai envie de vous dire. Oui. Ça veut dire les deux, effectivement. Il y a plus de surface, il y a un besoin, une envie et il y a une nécessité aussi. Si on télétravaille, évidemment, il faut un coin bureau. Il faut peut-être une pièce supplémentaire. Et ça aussi, c'est des demandes qui sont faites en matière immobilière où il y a des gens carrément qui déménagent parce qu'ils disent « je voudrais un coin bureau, donc j'ai besoin d'un espace un peu plus grand, d'une pièce de plus ». Il y a aussi des gens qui font des aménagements spécifiques parce qu'un bureau, évidemment, c'est pas forcément évident.
Oui.
À Paris, où le prix du mètre carré est à plus de 10 000 euros, je rappelle quand même, se ménager un espace dans un endroit où on compte les mètres carrés,
que ça soit rentable,
ça coûte de l'argent. Ben voilà. Donc à ce moment-là, il faut vraiment s'organiser. Donc là aussi, il y a un espace pour la décoration d'ailleurs, l'aménagement.
Jean-Pierre est avec nous au 32-16, messieurs. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour messieurs.
Bonjour Jean-Pierre.
Bienvenue,
bonjour.
On vous écoute.
Merci de m'avoir déjà pris à l'antenne. Voilà, j'ai une petite question. J'ai fait une demande de crédit à ma banque. Et donc j'ai droit à 300 000 euros. Malheureusement, pour faire l'achat, soit dans le neuf ou dans la rénovation, il faut que j'amène 10% de la somme. Et là, évidemment, ça bloque. Alors, est-ce que ça dépend de l'âge? Est-ce que ça dépend... Enfin, je suis dans le flou total.
C'est ce qu'on appelle l'apport.
Alors,
c'est ça. Hein.
Attendez, moi, je peux vous dire qu'il y a des banques qui font du 100%. Hein. Ça existe, hein, c'est pas monsieur Allouche.
Ça existe. Alors le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait les banques déjà qui gagnaient pas beaucoup d'argent avec le crédit immobilier ont aujourd'hui peur. Elles ont peur qu'il y ait des problèmes économiques et qu'il y ait des défaillances notamment de personnes qui pourraient se retrouver au chômage.
Le marché s'est tendu du crédit.
Le marché, alors
avec le Covid.
C'est pas tellement les taux qui se sont tendus parce que les taux ont remonté mais légèrement, mais c'est pas énorme.
Oui, c'est marginal.
C'est surtout les conditions.
Ils demandent 10% d'apport.
Ils demandent des apports.
Voilà.
En fait, ils ont peur.
30 000 euros, ils demandent 30 000 euros.
Exact. Et vous avez vu plusieurs banques, Jean-Pierre?
Non, pour l'instant, j'en ai vu qu'une.
Ah bah, attendez. La concurrence, hein, allez voir aussi.
Première chose,
il y a des courtiers qui permettent de comparer. Hein.
D'accord.
Allez-y, parce que c'est en soi, si vous voulez, ça n'est pas juridiquement une obligation. L'indice 10%, oui, mais la banque peut vous prêter la totalité, ou bien vous pouvez aussi avoir deux établissements bancaires. Hein.
Mais c'est vrai.
D'accord. Oui. Parce que dans cette banque-là, j'ai vraiment tout pris, voilà, pour être tranquille. Et maintenant que je demande évidemment un crédit, là, c'est bizarre, ça bloque. Alors, pour leur donner de l'argent, pour faire les assurances et tout
là, ils sont contents.
Voilà. Et dès qu'on leur demande pour un crédit maison, alors là, c'est bizarre, c'est un refus. Il faut amener des apports, il faut amener des garanties. Voilà.
Ce que vous avez intérêt à faire, monsieur, un petit conseil que je vous donne, c'est d'aller voir plusieurs banques.
Mais bien sûr.
Partez effectivement de votre banque habituelle et avec une proposition qui forcément sera pas bonne, je vous le dis très clairement, et allez voir d'autres banques. Et après, vous retournez voir votre banque si vous voulez.
Voilà.
Et
vous verrez qu'ils vont s'aligner sans aucun problème.
Exact.
D'accord, parce que eux, ils m'ont dit que au jour d'aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui est passée, qu'il fallait donner 10% d'apport. Enfin, ils m'ont sorti un tas de...
Allez voir un courtier.
Il n'y a pas de loi sur les apports. Il y a effectivement une règle qui veut qu'on puisse pas endetter au-delà normalement de 33% les gens. Oui. Effectivement, parce que en moyenne, il y a effectivement 30%
sur l'endettement. C'est sur l'endettement.
Mais sur l'apport, non, il y a pas vraiment de règle. Il y a des instructions en interne de la part des banques, par contre.
Est-ce que justement la mobilisation des banques sur le soutien aux entreprises ne conduit pas aussi à ce qu'elles soient moins disponibles au niveau du financement?
Alors il faut savoir que l'accompagnement des banques vis-à-vis des entreprises, c'est l'État essentiellement qui finance. Hein. C'est pas tellement les banques. Oui. Je pense qu'il y a vraiment une crainte.
L'État donne des garanties.
Exact.
C'est ça.
Exact.
Hein.
Je pense qu'il y a.
Il y a quand même une répercussion par rapport aux particuliers.
Oui, mais je pense que c'est plus dû, à mon sens, d'une crainte des banques d'avoir un secteur immobilier et d'être plombé par des crédits avec des gens qui seraient défaillants. C'est surtout la difficulté.
Mais c'est vrai que on nous a toujours conseillé d'avoir un petit apport quand même quand on souscrit un crédit, non?
Oui, mais effectivement, on pouvait, jusqu'à une période assez récente, avoir aucun apport, sans aucun apport. Dès lors qu'on avait évidemment un bon dossier, il faut être solvable, il faut avoir des revenus réguliers, il faut pouvoir supporter le crédit, mais ça, c'est une constante. Mais là, aujourd'hui, il demande un apport parce que ça permet de réduire, justement, le nombre, peut-être, le montant de crédit immobilier, du portefeuille de crédit immobilier de la banque.
Comment se portent les transactions immobilières actuellement post-Covid, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a un attentisme de la part des vendeurs, des acheteurs? Est-ce que vous voyez des comportements étonnants que vous n'aviez pas avant?
Alors il y a un grand besoin besoin d'immobilier puisqu'on était à plus d'un million de transactions avant la période de confinement et il y a un besoin immobilier qui demeure et qui n'a pas pu s'exprimer pendant deux mois. Donc ce besoin il s'exprime aujourd'hui. C'est un petit peu comme si vous tirez un élastique puis d'un coup vous le lâchez, ça effectivement ça part. Donc là on a énormément en ce moment de ventes immobilières qui se passe et on ne sait pas évidemment ce qui va devenir par l'avenir parce que ça va dépendre de la situation économique, du chômage des gens et là aujourd'hui on n'y voit pas clair. Néanmoins les transactions immobilières aujourd'hui sont extrêmement importantes. Il y a beaucoup
de marché dynamique.
Ah, extrêmement dynamique. Il y a énormément de demandes.
On revient dans un instant, Christian.
On sera toujours là.
Et je pourrais poser quelques...
On va parler de viager aussi.
Et ben voilà, moi j'aimerais avoir quelques conseils parce que franchement, comme vous êtes increvable, il va falloir que je demande quand même à Sophie Richard, qui est fondatrice du réseau Viagimo. Ce qu'il faut que je fasse.
On va l'avoir tout de suite.
Un petit croche-pied, est-ce que j'ai le droit, exemple, bien placé, hein. Allez, à tout de suite, c'était RMC 7h42.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 7h47, Christian PC est toujours là.
Oui.
Et évidemment, notre invité aussi, nos invités, Eric Alouche, qui est directeur exécutif du réseau immobilier ERA. Et nous avons aussi Sophie Richard, Christian, avec
oui,
nous.
Oui, Sophie Richard, qui est fondatrice du réseau Viagimo. Bonjour, Madame Richard.
Bonjour. Bonjour, Eric.
Voilà, vous connaissez bien.
Oui, juste une petite précision. Restez avec nous dans un instant. Je vous expliquerai comment remporter une piscine. Voilà, je referme la parenthèse.
Et très intéressant.
Ben voilà, c'est pas mal, hein, Sophie.
Oui,
on est d'accord.
Je reste en ligne.
Voilà. Sophie Richard, le mot viager, évidemment, c'est complètement associé à un film célèbre. Est-ce que c'est pas complètement un gars, excusez-moi, mais est-ce que ça fait pas partie des solutions d'autrefois? Et est-ce que sur le plan moral, ça pose pas un petit problème quand même?
Ah, ce célèbre film de Serge Tchernia, et soit dit en passant, il est très, je me suis beaucoup amusée à le regarder.
Eh oui.
Et si je peux me permettre, Christian, il appartient au temps ancien. Et c'est vrai que la réalité du viager, après je peux comprendre, parce que quand on ne connaît pas, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur, c'est normal. Mais pour ma partie, je suis vraiment spécialiste de cette vente et je suis sur le terrain. Et je m'aperçois au quotidien que cette vente est méconnue, vraiment, et souffre d'idées reçues.
On est là pour ça. En quelques mots, comment ça marche? Il y a plusieurs solutions, on s'y perd un peu, occupé, alors, libre, le bouquet, etc. Bon.
Alors, en quelques secondes, parce que je pourrais en parler des heures et c'est pas l'objectif de la matinale.
Non, pas vraiment.
Mais le viager, c'est avant tout une vente immobilière. Donc, on est dans le sujet de l'immobilier, c'est parfait, avec des particularités, des spécificités quant aux conditions et au prix. Vous allez trouver deux types de viagers, principalement le viager occupé et le viager libre. Dans le cadre du viager occupé, le vendeur reste vivre chez lui en percevant la plupart du temps un bouquet, une somme versée comptant à la signature chez le notaire.
D'accord.
Et il rend le viager toute sa vie durant.
Mmh.
Et l'acquéreur, lui, va bénéficier d'une décote d'occupation. Ça veut dire qu'il va acheter de l'immobilier à prix réduit. Et puis, vous avez le viager libre. Comme dans une vente traditionnelle, le vendeur va quitter son logement en remettant les clés. Et l'acquéreur, lui, va pouvoir soit mettre en location le bien ou bien accéder à la propriété, devenir propriétaire. Et j'entendais Eric parler tout à l'heure justement des conditions d'emprunt qui étaient peut-être plus restrictives ces derniers temps depuis le confinement. Et la bonne nouvelle, c'est que avec le viager libre, on peut acheter sans nécessité d'avoir recours à l'emprunt. Donc ça peut intéresser beaucoup de personnes, de vos auditeurs de ce matin, qui ne connaîtraient pas ce dispositif et qui peuvent accéder à la propriété en viager libre.
D'accord. Alors, j'ai vu aussi que fiscalement, ça présentait un certain nombre d'avantages.
Oui, effectivement, on a pas mal d'avantages pour que ce soit côté vendeur ou acquéreur d'ailleurs. Côté acquéreur, on va acheter un bien immobilier à prix réduit et les frais de mutation, les frais de notaire seront calculés sur la valeur occupée en viager occupé.
D'accord.
Pour les personnes qui sont aussi sujets à l'IFI, acheter en viager peut permettre de sortir du champ d'application de l'IFI puisqu'on va reprendre encore une fois la valeur occupée du bien et non pas la valeur vénale, la valeur globale du bien.
D'accord. Une structure comme la vôtre, vous faites quoi? Vous êtes comme une agence? Comment ça marche?
Oui, on est soumis à la loi Auguet, donc on est agent immobilier. On ne va faire les agences du réseau Viagimo, donc il y a des agences un petit peu partout en France maintenant, ne font que de la vente en viager et de la vente à terme.
D'accord.
Mais on est agent immobilier, soumis à la même réglementation. Et on va conseiller. On va recevoir du coup les vendeurs qui vont avoir besoin de conseils, comprendre la dynamique du viager. On va faire l'estimation, on va prendre le mandat comme un agent immobilier, on va commercialiser, mettre en communication le bien en viager.
D'accord.
Et puis on va sélectionner bien sûr un acquéreur, vérifier la solvabilité et puis assurer la gestion viagère également pour les personnes qui ne veulent pas être lâchées dans la nature après la signature de l'acte notarié.
Ok. Est-ce qu'avec le vieillissement de la population, c'est une bonne affaire? Parce qu'on voit que les gens vivent de plus en plus longtemps. Donc c'est quand même...
Et tant mieux.
Bien sûr.
Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire, Christian.
Ben oui.
Les calculs, on achète moins cher un viager aujourd'hui qu'on l'achetait il y a plusieurs années. Pourquoi? Parce que les estimations viagères tiennent compte de l'espérance de vie actuelle.
D'accord.
Donc les données sont actualisées par rapport à l'espérance de vie des vendeurs. Mmh. Et c'est vrai que, à mon sens, je pense que c'est un dispositif qui est vraiment moderne, bien qu'il date du temps des Romains, à haute valeur sociale. On va mutualiser les intérêts de chacun, vendeur et acquéreur, dans un rapport gagnant-gagnant.
Merci beaucoup Sophie
Richard. Merci, je rappelle, vous êtes fondatrice de viagimmo.fr.
Voilà, et on remercie aussi Eric Alouche de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci beaucoup, avec plaisir.
Pour tous ses conseils, directeur exécutif du réseau immobilier ERA avec plus de 400 agences un peu partout. Nous avons Christine au 3216. Christine, bonjour. Oui.
Mais dites-moi, oui. vous êtes dans une bonne merde.
Vous êtes venue avec les oiseaux, visiblement, ce matin.
Ben, je suis dans le sud, donc...
Mais vous avez bien raison, Christine.
J'ai un extérieur, voilà.
On vous écoute.
Voilà. Alors, je vous appelle parce que moi, ben, justement, c'était pas un problème de place pendant le confinement, mais d'aménagement. Donc, mon fils a décidé d'aménager une salle de sport dans notre maison, mais à la cave. Or, nous avons une maison très ancienne qui est en bord de cours d'eau. Et la cave était avant une écurie, donc c'est humide et il y avait du salpêtre.
Oui.
Donc il a traité le salpêtre sur les murs, enfin on a assaini, ouais. On a enlevé l'eau, l'humidité. Mais là maintenant il veut recouvrir le sol et j'ai peur qu'en recouvrant le sol, l'humidité remonte, ouais. et se mette entre le sol et...
Et le revêtement. Alors j'ai vu effectivement vos photos. Gilles Val, notre producteur, me les montre à l'instant. Donc effectivement, une problématique. Ça a l'air très humide. Alors la première des choses, c'est de traiter l'humidité. Mais si vous avez une rivière à côté, vous allez avoir du mal à assécher la rivière. Donc il y a une solution radicale. C'est de faire un cuvelage dans la cave, c'est-à-dire de mettre une boîte en béton en quelque sorte dans la boîte qui est la vôtre avec un puits de décompression. Des spécialistes savent très bien faire cela. En tout cas, dans l'état actuel des choses, la première des priorités, c'est de ventiler. Donc, il faut ventiler votre sous-sol un maximum. Si vous ne voulez rien faire d'autre pour l'instant, il faut trouver le moyen de mettre un revêtement qui ne soit pas un revêtement complètement étanche, qui puisse donc drainer l'humidité. Alors là, il y a deux solutions. J'en parlais tout à l'heure pour la terrasse, mais ça vaut aussi pour une salle de sport, c'est de mettre des caillebotis, tout simplement. D'ailleurs, vous savez, ce sont des grandes dalles de 50-50, voire il en existe d'un mètre sur un mètre, qui sont donc des lames de bois ajourées, entre les lames, il y a un jour, donc ça permet une ventilation. Sinon, il y a des lames de PVC qui sont des lames ou des dalles plutôt, qui se font par emboîtement, d'ailleurs, l'assemblage se fait par emboîtement. Il y a des dalles de PVC qui sont au revers, un peu en nid d'abeille, si vous voulez, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un envers calandré. Ce type de revêtement permet une certaine circulation de l'air en dessous des dalles et par les joints l'humidité peut s'échapper. Donc ce seraient les solutions, si vous voulez, évidemment les moins onéreuses. Surtout pas de revêtement étanche. Complètement étanche, c'est-à-dire surtout pas par exemple de PVC ou de revêtement caoutchouté, parce que là vous allez bloquer l'humidité en dessous. Et d'ailleurs, si vous mettez par exemple, des dalles de caillebotis que j'évoquais, vous pouvez mettre une feuille de ce qu'on appelle le polyane en dessous, qui évite les remontées d'eau, mais qui malgré tout permettent leur évacuation en périphérie. Donc voilà ce que je vous proposerai de plus simple.
Ouais. Et après, on m'avait aussi parlé d'un revêtement, de passer avant de mettre mon revêtement final. Une sorte de résine.
Si vous voulez, ce que vous allez faire, si vous mettez une résine ou si vous aviez un revêtement complètement étanche, c'est que vous allez reporter l'humidité en périphérie et vous allez avoir à ce moment-là des remontées capillaires sur les murs. C'est-à-dire que vous allez rejeter l'humidité en périphérie et c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux laisser l'humidité s'évaporer quelque part et assurer une très bonne ventilation, éventuellement un déshumidificateur électrique. Qui vous permettra de retirer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Hein. Les petites boîtes avec les cartouches, ça sert strictement à rien.
Je vais me faire des copains là. Merci beaucoup Christine. Christian, on se retrouve la semaine prochaine, mais auparavant, sachez que je vous offre encore cette piscine, une piscine Summer Waves, piscine tubulaire, rectangulaire, de 4 mètres sur 2, qui sera parfaite pour se rafraîchir cet été. Pour remporter cette piscine, vous nous envoyez maison par SMS au 7-32-16 dès maintenant. Maison par SMS au 7-32-16, bien sûr. Bonne chance, attention, SMS surtaxé. Christian sera là, évidemment, samedi prochain.
Absolument.
Et dans un instant, Christian Riquet prend le relais. Vous le savez, c'est la forme et la santé. Christian a porté des chouquettes, il en a mangé 48.